puisqu'il est 18h sur France Culture, le journal. Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Climat et évolution technologique seront les priorités du nouvel exécutif européen. Le portefeuille de l'économie revient à l'italien Paolo Gentiloni. Analyse de Marie Viennot dans un instant. Donald Trump perd des soutiens. Les fermiers du Minnesota subissent la guerre commerciale avec la Chine et ne font plus confiance au président américain. Dossier signé Grégory Phillips. Robert Frank, monstre sacré du photojournalisme, disparaît en 1958. Il avait montré la face sombre de l'American Dream dans Les Américains. La rédaction du Monde craint de perdre son indépendance. Elle veut obtenir un droit de regard sur l'entrée d'un nouvel actionnaire en position majoritaire dans le capital du groupe. L'équipe doit encore être auditionnée par le Parlement européen avant d'entrer en fonction le 1er novembre, mais la nouvelle Commission européenne prend tournure. Ursula von der Leyen a dévoilé les portefeuilles du nouvel exécutif et les noms des 26 futurs commissaires. Sa priorité, faire face aux changements climatiques et technologiques. Elle a donc choisi le social-démocrate Frans Timmermans pour coordonner les travaux consacrés au pacte vert, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et la libérale danoise Margrethe Vestager supervisera l'ensemble des programmes pour adapter l'Europe à l'ère numérique. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Avec vous, nous nous attardons sur la composition de cette commission sur les questions économiques et financières. Le portefeuille que gérait Pierre Moscovici, les affaires économiques, passe à l'Italie. Mais la France récupère le marché intérieur, l'industrie et l'armement avec Sylvie Goulard.
Oui, le but du commissariat au marché intérieur, c'est de faire advenir le marché unique et faire en sorte que les économies européennes s'imbriquent le mieux possible les unes aux autres. À ce poste, le français déjà Michel Barnier avait géré toute la régulation financière post-crise. Sylvie Goulard sera, elle, en charge de la mise en place effective du marché unique numérique. L'idée étant de briser les barrières nationales en matière de télécommunications dans l'espace. C'était en tout cas celui de la précédente commission, de faire face à la concurrence américaine sur le web. Sylvie Goulard sera aussi chargée de l'industrie, de la défense et de l'espace, mais comme tous les autres commissaires, elle devrait être confirmée à ce poste par les députés européens, ce qui n'est pas gagné. L'enquête pour emploi fictif qui l'a obligée à démissionner du gouvernement il y a 3 ans étant toujours pendante. La Danoise Margrethe Vestager n'aura, elle, pas de mal à être confirmée. L'ancienne commissaire à la concurrence jouit d'une grande popularité pour s'être attaquée à la position dominante des géants de la Silicon Valley, ainsi qu'à l'un des tabous européens, la concurrence fiscale entre les États. Elle retrouve son portefeuille à la concurrence, ce qui lui permettra d'aller au bout des enquêtes qu'elle a lancées, et elle supervisera en plus l'ensemble des programmes européens sur le numérique. Autre nomination intéressante, celle du Letton Valdis Dombrovskis au service financier. En charge de l'euro dans la précédente commission, il aura dorénavant la mission de concilier la dimension sociale et le marché. La finance lettonne n'est pas au mieux depuis plusieurs mois. Scandale et faillite se succèdent. Nommer un Letton à ce poste n'est donc pas anodin. Même chose pour la nomination de Paolo Gentiloni à l'économie. L'Italien aura notamment pour mission de faire respecter le pacte de stabilité, alors que l'Italie est justement le pays qui demande plus de souplesse pour son budget.
À noter, Sylvie Goulard a été entendue aujourd'hui par la police. Une audition dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif du MoDem au Parlement européen. 10 mois après l'arrestation spectaculaire de Carlos Ghosn, le grand nettoyage continue chez Nissan. Hier soir, c'est le PDG du groupe, Hiroto Saikawa, qui a été contraint de démissionner. Son nom est apparu dans le grand audit interne que le constructeur avait lancé l'an dernier pour faire la lumière sur toutes les malversations de ces 15 dernières années. Et la liste des abus est très longue. Précision de Yann Rousseau à Tokyo.
C'est un rapport confidentiel que seuls les membres du conseil d'administration de Nissan ont pu voir. Ils n'ont même pas eu le droit d'en emporter une copie, car il est potentiellement explosif et il contient de nombreux éléments qui intéressent la justice japonaise et notamment le procureur qui a mis en examen Carlos Ghosn à 4 reprises. Alors c'est le résultat de plus de 10 mois d'enquête, résumé sur 170 pages remplies de copies d'emails, de SMS, de factures ou encore de virements bancaires. Au total, les enquêteurs ont découvert pour 45 milliards de yens d'irrégularités, ça fait 300 millions d'euros. Le nom d'Hiroto Sakawa, le PDG démissionnaire, apparaît bien dans l'enquête. Il est accusé d'avoir touché un bonus anormalement dopé en 2013. Il aurait perçu 400 000 euros en trop. Mais l'essentiel de cet audit est une charge contre Carlos Ghosn. Les enquêteurs évoquent les dizaines de millions d'euros qu'il pensait percevoir en compensation différée, mais aussi les abus de biens sociaux. Ils reviennent sur les résidences achetées par Nissan à Beyrouth et à Rio de Janeiro pour leur ancien patron. Ils évoquent le luxueux yacht utilisé par sa famille, les voyages de ses enfants dans le jet privé de l'entreprise, ou encore les salaires de consultantes versés à sa sœur. Ce matin, l'ancien patron a 4 catégoriquement démenti toutes ces accusations par un communiqué de ses avocats. Il assure toujours qu'il est victime d'un complot. Mais Nissan se dit prêt à l'affronter devant les tribunaux. Le groupe a d'ailleurs annoncé hier soir qu'il allait attaquer son ancien PDG dans plusieurs pays avec l'espoir de récupérer une partie des sommes qui avaient été injustement déboursées. C'est une véritable guérilla judiciaire qui s'ouvre.
L'état de l'économie préoccupe de plus en plus les Américains. Selon un sondage Washington Post ABC, 6 Américains sur 10 estiment qu'une récession est très ou plutôt probable dans l'année à venir. Ils sont autant à redouter une hausse des prix des produits de consommation courante du fait du bras de fer commercial avec la Chine. Le 1er septembre, les États-Unis ont imposé de nouveaux droits de douane de 15% sur un peu plus de 110 milliards d'importations chinoises. Une politique qui met en difficulté les agriculteurs américains. Soumis aux mesures de représailles chinoises, ils peinent désormais à exporter leur maïs ou leur soja, à tel point que la défiance à l'égard du président Donald Trump grandit. Grégory Phillips s'est rendu dans l'état du Minnesota où il a rencontré des fermiers exaspérés.
Soyez les bienvenus à la State Fair, la grande foire agricole du Minnesota, qui tous les ans à Minneapolis attire 2 millions de visiteurs. Mais l'ambiance festive et musicale cache mal l'inquiétude des fermiers américains. Il y a encore 5 ans, les États-Unis exportaient vers la Chine près de 25 milliards de dollars de produits agricoles. L'an passé, c'est tombé à 9 milliards et chaque mois, les volumes ne cessent de baisser. Gary Wertige préside le syndicat des agriculteurs du Minnesota.
Vous savez, nous sommes des dommages collatéraux dans cette affaire. Tout le monde est d'accord pour dire que la Chine vole les brevets de propriété intellectuelle dans l'agriculture ou l'industrie. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il fallait faire quelque chose. Mais c'était une énorme erreur du président de vouloir s'attaquer à la Chine tout seul. C'est une coalition de pays qui aurait dû s'en occuper. Là, notre président est comme un boxeur coincé dans un coin du ring. Il ne sait pas comment s'en sortir. Franchement, nous les fermiers, on commence à en avoir marre de l'entendre nous dire qu'on gagne en ce moment alors qu'on perd. Il nous explique « Mais vous êtes des patriotes ». Mais le banquier ne va pas me dire « T'es un patriote, pas la peine de rembourser ton crédit ».
À une heure, au nord de Minneapolis, nous voici sur l'exploitation de Brad Ovell. Toute la famille travaille sur place. La ferme a été créée il y a un demi-siècle par le père de Brad. Et ici, on produit essentiellement du blé et du soja. Soja qui, depuis juillet dernier, est taxé à 25% par les Chinois.
Dans un monde idéal, on adorerait vendre nos porcs, nos bœufs, nos volailles à l'export, parce que ça crée des emplois ici aux États-Unis. Vous savez, nous les fermiers, on a investi beaucoup de temps et d'argent pour conquérir le marché chinois. À l'époque, c'était super, ils avaient beaucoup d'animaux à nourrir. On leur vendait notre soja, eux, ils n'arrivaient pas à produire assez pour nourrir tout leur bétail. Et maintenant, ici en Amérique, on produit plus que nécessaire. Donc on a besoin du commerce international.
Alors la frustration chez les fermiers du Minnesota, normalement plutôt républicain, commence à monter. Fin août, Donald Trump a envoyé sur place son secrétaire à l'agriculture pour tenter de calmer les esprits. Et surtout, l'administration a débloqué une aide d'urgence de 28 milliards de dollars. Mais Brian Tallman, qui représente les producteurs de maïs du Minnesota, est sceptique.
Les subventions sont évidemment appréciées. Mais presque tout le monde ici vous dira qu'on préfère tirer nos revenus de la vente de nos produits plutôt que des aides gouvernementales. Mais bon, si ça permet à certains fermiers de survivre jusqu'à l'année prochaine, on n'a pas le choix. Il faut accepter et aller de l'avant.
Sur un an, aux États-Unis, le nombre de fermes en faillite a grimpé de 13%. Et pour le président des agriculteurs du Minnesota, Gary Wertige, ces difficultés ne sont pas passagères.
Même si demain le président et la Chine trouvent un accord, on n'arrivera jamais à reconquérir le marché chinois comme avant. Ils sont déjà en train de signer des contrats avec le Brésil et les Brésiliens libèrent des terres pour planter plus de soja. Donc peut-être qu'on reprendra un peu de ce marché, mais pas comme avant. Les agriculteurs américains sont vraiment dans une situation difficile.
Donald Trump sait qu'il a intérêt à entendre et à soigner ses fermiers du Minnesota, du Nebraska ou du Wisconsin à 14 mois maintenant de la présidentielle.
Grégory Phillips, correspondant permanent de France Culture aux États-Unis. Et ce soir, on apprend que Donald Trump se sépare de John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale. Hier, pourtant, le président américain contestait vigoureusement les informations de presse selon lesquelles sa volonté d'organiser une rencontre avec les talibans à Camp David avait fait l'objet de vifs désaccords au sein de son équipe. Désaccords avec Mike Pence et John Bolton. Et le président Donald Trump disait alors que c'était uniquement des fake news. C'est son album « Les Américains » préfacé par Jack Kerouac qu'il avait fait connaître en 1958. Un livre de clichés en noir et blanc tiré de ses voyages à travers les États-Unis. Le photographe américain Robert Frank est mort hier au Canada à 94 ans. De très nombreux confrères lui rendent hommage ce soir, Claude Guibal.
Été 55, à New York, un jeune homme prend le volant d'une vieille Ford. Il s'appelle Robert Frank. Il a 30 ans et ce jeune photographe suisse-allemand, arrivé quelques années auparavant aux États-Unis, a une idée. Traverser le pays d'est en ouest, rapporter ce qu'il voit, sans idée préconçue, sans but, sans case à remplir. La bourse Guggenheim qu'il vient de remporter va lui permettre de manger de la route pendant 9 mois et prendre plus de 20 000 photos. Des milliers de clichés, autant de rencontres au gré du chemin, les visages de l'Amérique sortis de la Seconde Guerre mondiale. Est déjà en pleine guerre froide. Ce pays qu'il rencontre, c'est celui des inégalités, de la ségrégation. C'est la grande pauvreté, l'immense richesse. Les quelques 80 photos qu'il choisit de publier sous le titre « The Americans », les Américains, marquent aujourd'hui, avec la distance du temps, un tournant majeur à la fois dans l'histoire de la photographie, mais aussi dans celle des États-Unis, à qui Robert Frank renvoie alors un reflet sans concession. Très loin du rêve sans aspérité et coloré de la publicité et des magazines, figure de la Generation, c'est un compagnon de route de Jack Kerouac qui préface d'ailleurs The Americans. Ce regard sans filtre, pas très bien accueilli à sa sortie, est depuis devenu une œuvre culte. Robert Frank aura non seulement marqué l'histoire de la photographie, mais aussi plus largement celle de l'œuvre documentaire, image ou texte, en privilégiant le regard et surtout l'intérêt et la distance égale pour les puissants et les invisibles, mettant ainsi en lumière toute l'ombre qui donne du sens.
Et si vous voulez vous plonger dans l'œuvre de Robert Frank, rendez-vous sur franceculture.fr. 472 journalistes du Monde, soit la quasi-totalité de la rédaction, interpellent leurs actionnaires. Ils réclament la reconnaissance d'un droit d'agrément, droit exceptionnel consenti l'année dernière par le trio Xavier Niel, Mathieu Pigas et Pierre Berger. Ce droit devait permettre aux journalistes de choisir leur actionnaire majoritaire afin d'assurer la protection de leur indépendance éditoriale. Si Xavier Niel a signé, les deux autres actionnaires, et particulièrement le nouveau collaborateur de Mathieu Pigas, le tchèque Daniel Kretinsky, ne l'ont pas fait, d'où l'inquiétude des signataires de la Tribune, Cécile de Kervaz-Doué.
En 2010, les salariés, journalistes et la Société des lecteurs du Monde réunis en pôle d'indépendance du journal étaient parvenus à imposer leur choix parmi plusieurs offres de repreneurs. Ils avaient opté à l'époque pour le trio Xavier Niel, Mathieu Pigas et Pierre Berger et ils avaient obtenu aussi la garantie de leur indépendance éditoriale avec celle de la pluralité et de la diversité de l'actionnariat du journal. Mais en octobre 2018, Mathieu Pigas s'est allié avec Daniel Kretinsky, cinquième fortune tchèque. Le pôle d'indépendance du Monde avait alors exigé qu'un droit d'agrément lui soit signé. « D'accord », avaient écrit les trois actionnaires par courriel. Mais depuis, les négociations sur le sujet ont traîné. Car si ce droit d'agrément n'est pas un droit de veto, dans le cas où l'un des actionnaires prendrait des participations majoritaires, à plus de 50%, le pôle d'indépendance pourrait alors s'y opposer et proposer une autre solution. Or, Daniel Kretinsky et Mathieu Pigas négocient depuis des mois le rachat des parts du groupe espagnol Prisma dans le capital du Monde, ce qui leur permettrait d'être propriétaires de 46% de la société qui contrôle aujourd'hui le journal. D'où l'émoi des journalistes qui veulent des garanties et vite, d'autant que Daniel Kretinsky a aussi l'année dernière investi dans les magazines Marianne, Elle, Ici Paris et Public avant de mettre la main sur deux centrales à charbon françaises et sur une partie du groupe Casino. Dans un paysage où la plupart des grands médias français appartiennent à une dizaine de milliardaires, le pôle d'indépendance du Monde exige aujourd'hui que Mathieu Pigas et Daniel Kretinsky ainsi que le mandataire de Pierre Berger signent leur droit d'agrément et ce, avant le 17 septembre, comme il s'y était engagé.
Le chef de l'État réclame la levée du secret défense dans l'enquête sur la catastrophe aérienne de la caravelle Ajaccio-Nice en 1968, catastrophe qui avait fait 95 morts, dont 13 enfants. C'est une avancée très importante aux yeux des familles de victimes qui n'ont jamais cru à la thèse officielle de l'accident, Florence Turm.
Oui, la demande officielle adressée par Emmanuel Macron à la ministre des Armées va incontestablement permettre d'accélérer le processus et d'aboutir à ce que le juge d'instruction niçois chargé du dossier cherchait à obtenir, mais sans résultat depuis maintenant près d'un an et demi. Le magistrat avait formulé sa requête en estimant que la thèse d'un tir de missile accidentel devait être prise très au sérieux. Une thèse soutenue par l'Association des familles de victimes du crash qui ont entrepris un véritable travail d'enquête parallèle depuis le 11 septembre 1968, jour de la catastrophe. Quatre ans après le drame, en 1972, le dossier s'était refermé sur un non-lieu. L'incendie survenu à bord de l'appareil étant attribué à un chauffe-eau situé dans les toilettes. Les familles, elles, restent persuadées persuadé que l'arrière de l'avion a été touché accidentellement par un tir de missile de l'armée française. Les frères Paoli, dont les parents ont été tués dans l'accident, entreprennent alors de recueillir des témoignages, produisent de nombreux documents, notamment un article de presse faisant mention d'un avis de tir le jour même dans la zone du crash, et ils obtiennent la réouverture de l'enquête pour soustraction et recel de preuves. D'où l'intérêt d'obtenir ces documents, soigneusement stockés dans les archives militaires, sans pour autant détenir la certitude qu'ils permettront de faire toute la lumière. Les demandes de levée du secret défense ne sont pas chose courante, mais elles sont intervenues déjà dans de nombreuses affaires sensibles. Clearstream, le génocide rwandais, l'attentat de Karachi, le meurtre des moines de Tibet et Rin, plus récemment encore, les attentats du 13 novembre, sans apporter nécessairement toutes les réponses recherchées.
Florence Turme. Les urgentistes en grève reconduisent leur mouvement. Le plan présenté par la ministre de la Santé pour limiter l'afflux aux urgences ne répond pas aux revendications qu'ils répètent depuis près de 6 mois. Agnès Buzyn a annoncé la mobilisation de 750 millions d'euros sur 3 ans, mais le collectif Interurgence réclame toujours des mesures immédiates. La mobilisation se poursuit donc, Fiona Mogadam.
Oui, c'est ce qu'ont décidé les 150 personnes regroupées dans l'amphithéâtre de la Bourse du Travail de Saint-Denis depuis la fin de matinée. Après un point sur l'état des différents services d'urgence région par région, l'avis de chacun sur les annonces de la ministre hier, l'Assemblée Générale a décidé de maintenir ses demandes, comme l'explique Swan, infirmier et délégué régional pour le collectif Interurgence en Bourgogne-Franche-Comté.
C'est la revalorisation salariale pour l'ensemble des soignants dans les hôpitaux. C'est l'arrêt des fermetures et la réouverture des lits d'aval pour un objectif zéro hospitalisation brancard aux urgences et du coup pouvoir avoir des moyens suffisants dans les services pour pouvoir accueillir les gens dignement, convenablement. Et la troisième, une augmentation salariale. C'est toujours les mêmes revendications et on s'aperçoit que ces revendications-là, qui ont débuté par les urgences, coïncident avec l'ensemble des hospitaliers.
Oui, parce que c'est l'autre demande de cette Assemblée Générale aujourd'hui. Elle appelle à la mobilisation de tous les services hospitaliers et plus seulement des urgences, avec un appel particulier aux médecins invités à se joindre au mouvement. Le docteur Renaud Péquignot, président d'Avenir Hospitalier, une intersyndicale de praticiens hospitaliers, estime que ce n'est pas évident. Mais cela commence à changer.
Je sais que la pression monte. Suite à notre annonce, à notre communiqué dans lequel on disait qu'on rejoignait le mouvement, on n'appelait pas encore à la grève, on a reçu beaucoup de messages de médecins disant « enfin, il faut y aller, il faut qu'on fasse grève, il faut faire quelque chose ».
Pour le moment, le collectif Interurgence manifestera le 26 septembre partout en France et une mobilisation est envisagée lors des autres rassemblements organisés prochainement, dont celui de demain à l'initiative de la CGT.
Fiona Mogadam à Saint-Denis où s'est réuni le collectif avec Olivia Branger à la technique. Le mouvement des urgences peut-il s'arrêter un jour? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à 18h20 aux invités du temps du débat. Le rapport annuel de l'OCDE intitulé « Regard sur l'éducation » met en évidence les atouts et les faiblesses du système français. Un constat, le salaire des enseignants français est en deçà de la moyenne avec des salaires particulièrement peu attractifs dans le primaire. Bonsoir Kim Kasmi.
Bonsoir les kiffeurs.
Alors le rapport s'est aussi penché sur l'enseignement supérieur. Là, la France est assez bien placée.
Oui, c'est la moyenne des jeunes diplômés et le 44% dans les pays de l'OCDE, celle de la France atteint les 47%. Des bons résultats qui s'expliquent par nos filières courtes, type BTS et UT, où le taux des réussites dans les délais, donc en 2 ans, est de 66% contre 39% en licence. Ce qui se traduit aussi par un très bon taux d'employabilité de 85%. En revanche, ce n'est pas le cas pour les jeunes venant de Bac Pro. Éric Charbonnier, expert éducation à l'OCDE.
Les bacheliers professionnels scolarisés en Bac plus 2, après 3 ans d'études, vous avez simplement 1 sur 2 qui a obtenu son diplôme. Et quand on regarde les jeunes des filières générales technologiques qui sont dans un Bac plus 2, le taux de réussite est de 84%. Donc il y a un véritable problème aujourd'hui de débouchés. Il faut améliorer les débouchés, la réussite des bacheliers professionnels en Bac plus 2.
Des améliorations qui doivent porter aussi sur le contenu des programmes qui ne sont pas forcément adaptés, notamment dans les matières générales où le nombre d'heures a baissé avec la réforme du bac pro en 3 ans. Résultat, le nombre de décrocheurs est aussi plus important en BTS chez les bac pro, notamment en première année. Enfin, autre inégalité pointée par l'OCDE, en France, seuls 17% des élèves dont les parents n'ont pas fait d'études décrochent un diplôme dans le supérieur.
Hakim Kasmi, le travail ne fait que commencer, constate la ministre des Sports. sport. Interrogé ce matin sur l'homophobie dans les stades de foot, le président de la Fédération française de football a estimé que racisme et homophobie, ça n'était pas la même chose. Et Noël Le Graët demande aux arbitres de ne plus interrompre les matchs en cas de manifestations homophobes dans les stades. Réaction de Roxana Maracineanu, la position qu'a prise Noël Le Graët est erronée. Elle l'invite à prendre sa part de responsabilité dans la lutte contre toutes les discriminations. Demain mercredi, nouvelle perturbation du Poitou aux Ardennes. Il pleuvra le long des côtes de la Manche et sur le nord des Hauts-de-France. Sur le nord-est, le ciel deviendra gris à la mi-journée. Retour du soleil en revanche sur la moitié sud. Au petit matin, les températures seront comprises entre 7 et 20 degrés. L'après-midi, 17 à 22 degrés sur un quart nord-ouest, 21 à 27 plus au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.